je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors, c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée.
En 2013, la BNF faisait l'acquisition d'un trésor national, les archives de Michel Foucault, l'un des philosophes français les plus importants du XXe siècle. 117 boîtes, couvrant près de 40 années de travail, des milliers de pages manuscrites, des notes de lecture et la matière première des livres du philosophe. Y figure notamment le manuscrit des Aveux de la chair, appelé à devenir le dernier tome de sa monumentale Histoire de la sexualité. Le livre auquel Foucault aura consacré le plus de temps, sans parvenir à l'achever complètement, et que Gallimard publiera à titre posthume en 2018. Ce livre monument nous plonge dans les textes de l'Antiquité chrétienne, à la recherche de la rupture opérée par le christianisme dans notre rapport au corps, au plaisir, à la sexualité. Un texte dans lequel Foucault interroge ce moment, dans l'histoire de la subjectivité, où on va se demander, pour savoir qui tu es, interroge d'abord ton désir. Aujourd'hui, nous recevons le philosophe Philippe Chevalier pour nous parler de la nouvelle édition revue et augmentée de son livre « Michel Foucault et le christianisme ». Un livre qui reste encore à ce jour le seul, en langue française, consacré à l'ensemble des travaux de Foucault sur le christianisme. Mais un livre qui aborde aussi toutes les lectures de Foucault sur le sujet. De l'Antiquité tardive jusqu'à la littérature moderne, de Gustave Flaubert à Georges Bataille en passant par Maurice Blanchot. Mais alors, comment notre sexualité en est-elle venue à faire la vérité sur nous-mêmes ? Et comment est-elle devenue coupable à travers les aveux de la chair ? Quel destin le christianisme a-t-il eu dans nos vies, dans la manière de nous conduire, de connaître notre désir ou encore de chercher notre salut ? Et en quoi, finalement, l'approche de Foucault a-t-elle renouvelé notre manière de lire la doctrine des Pères de l'Église, une doctrine sexuelle élaborée, rappelons-le, au cours des 5 premiers siècles de notre ère ? Cette réédition que nous publions à quelques semaines du 40e anniversaire de la mort de Foucault bénéficie d'un travail de première main dans les archives du philosophe, avec nombre de références et de textes méconnus ou inédits. Elle reconstitue pour la première fois l'odyssée rédactionnelle de son ouvrage posthume, « Les aveux de la chair ». Philippe Chevalier a choisi de nous parler de ce livre en trois mots, « Aveux, christianisme et religion ».
Le sens des mots, un podcast de ENS Éditions. Soyez indulgents pour la qualité sonore, cet entretien a été enregistré à distance.
Alors le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot aveu. C'est peut-être le plus simple, le mot qu'on va relier directement à la pensée de Foucault dans sa relation avec le christianisme. Parce que le projet que se propose de suivre Foucault au mi-temps des années 1970, c'est bien entendu l'histoire de l'aveu, de la sexualité. Une question qui est désormais bien connue. Pourquoi devons-nous, en Occident, dire sans cesse la vérité de notre être, et en particulier la vérité de notre sexualité ? La dire au juge, la dire au médecin, la dire au psychiatre, mais aussi tout simplement dans la vie sociale. Constamment, nous sommes amenés à formuler, à verbaliser cette vérité de nous-mêmes. Or, ce qui est intéressant avec Foucault, c'est qu'il ne va pas lier, justement, à travers cette question de l'aveu, la sexualité avec la loi. Il ne va pas lier la sexualité avec la morale, ce qui nous enverrait plutôt du côté de l'interdit, de la répression, mais il va lier la sexualité au discours. De ce discours bien particulier, dans lequel le sujet va s'engager lui-même, librement, en son nom propre, à dire quelque chose à propos de lui-même. C'est cela l'aveu. Et dans l'aveu, ce qui est original dans l'aveu, ce qui fait la spécificité de cet acte de langage, c'est qu'on fait bien plus, en fait, quand on avoue. On fait bien plus que simplement parler. Tout d'abord, parce que quand on avoue, il y a un certain coût de l'énonciation. L'aveu est difficile. C'est même à cela qu'on le reconnaît, qu'on l'authentifie. Cet aveu, par ailleurs, il a une direction. Il va de l'ombre vers la lumière, c'est-à-dire qu'il suppose qu'il y a quelque chose de caché qui doit être révélé. Et enfin, cet aveu, il est en lui-même une certaine épreuve de vérité. C'est-à-dire que l'aveu est la mise à l'épreuve de ce que je dis. Car c'est par l'aveu qui va permettre de vérifier, d'authentifier ma parole. Est-ce que j'ai du mal à le dire ? Est-ce que j'ai honte de ce que je dis ? Est-ce que je suis suffisamment exhaustif ? Est-ce que je réponds bien aux bonnes questions? Est-ce que je réponds bien aux bonnes catégories? Parce que justement, dans les différentes situations d'aveu, que ce soit l'aveu judiciaire, l'aveu religieux, l'aveu médical, on va définir à l'avance comment il faut avouer et à quoi on va reconnaître un bon aveu. Et bien entendu, ce qui doit être avoué. C'est-à-dire, par exemple, pour la sexualité, est-ce qu'il s'agit seulement d'avouer ses actes ou est-ce qu'il s'agit également d'avouer ses pensées? Est-ce qu'il s'agit de parler de son présent ou aussi de son passé? Est-ce qu'il s'agit de parler de ce qu'on fait librement ou aussi de ce qui relèverait d'une tentation extérieure ou d'un dérèglement de l'esprit, etc. C'est-à-dire qu'on va faire véritablement passer notre être par un filtre discursif. Or, que notre être intime soit ainsi objet d'un discours de vérité, eh bien, je pense que cela n'a rien d'évident, et c'est justement pour ça que Foucault va entreprendre d'écrire l'histoire de ce discours de vérité, l'histoire de cet aveu. Depuis quand avons-nous dû avouer notre sexualité? Depuis quand avons-nous noué ainsi sexualité et obligation de vérité? Rien ne s'est passé comme prévu par rapport à son premier projet d'histoire de la sexualité, et donc le projet que Foucault annonce en 1976 et qu'il va poursuivre jusqu'à sa mort en 1984. Foucault ne va cesser de reprendre cette recherche, mais de la remettre sur le métier, de l'enrichir, de l'élargir et finalement de s'éloigner de plus en plus de la question première. Eh bien, c'est un tout autre christianisme finalement qu'il va dessiner que celui de l'aveu. Et ça va être l'odyssée du dernier volume d'Histoire de la sexualité sur lequel j'ai particulièrement travaillé, Les aveux de la chair, qui est un volume qui a longtemps été resté inédit, publié finalement en 2018, et dont j'ai essayé de retracer la fascinante aventure rédactionnelle, en gros de 1977 jusqu'à la mort de Foucault en juin 1984. Et un volume surtout dont on ignorait tout, ou pratiquement tout, avant l'arrivée des archives de Michel Foucault il y a quelques années à la Bibliothèque nationale de France. Le deuxième mot que j'ai choisi justement d'aborder, c'est le mot christianisme, qui a longtemps été exclusivement noué pour Foucault à celui de l'aveu. Dans la perspective qu'il avait énoncée dans La volonté de savoir, en 1976, justement de rédiger une histoire de la sexualité et du discours sur la sexualité en Occident, qui était d'abord un gigantesque projet de 6 volumes. Et dans ce premier projet d'histoire de la sexualité, ben Foucault n'avait pas prévu de remonter en deçà, on va dire en gros, du Moyen Âge chrétien. Mais justement, autour de ce lien entre aveu et sexualité, il y a 2 choses qui me semblent très importantes. Eh bien, Foucault, tout d'abord, va évacuer toute idée de causalité directe, du confessionnal au bureau du médecin ou au prétoire du juge. Foucault ne pense pas ces différents aveux, l'aveu moderne, judiciaire, médical, et l'aveu chrétien, il ne les pense pas dans la continuité d'abord d'une même idéologie, ni même dans la continuité d'une même pratique qui aurait été simplement sécularisée. En fait, c'est une histoire beaucoup plus complexe que Foucault va raconter, qui est une histoire de transformation et de transfert de techniques qui, de la chair chrétienne qui était susurrée dans les confessionnaux jusqu'à la sexualité moderne analysée par une forme de science, eh bien, va tout changer du sens de la pratique et de la finalité de l'aveu. Et ça, c'est extrêmement clair. Foucault va justement, plutôt que on va dire, de tracer une espèce d'une ligne directe du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, au contraire, Foucault va très fortement insister sur les différences. Il faut vraiment le redire contre bien des simplifications qui ferait finalement des lectures chrétiennes de Foucault la simple dénonciation de ce qui serait, on va dire, le malin génie de notre modernité. Deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est justement ce progressif désintérêt de Foucault pour la question de l'aveu de la sexualité, qui était sa question première. Et je crois que ça a été pour moi véritablement la motivation première de cette recherche, Foucault et le christianisme, ça a été de découvrir le tournant qu'a vraiment été pour Foucault la découverte des pères de l'Église, de ses écrits, des premiers penseurs chrétiens. Et ça a été un choc d'ailleurs, parce que quand j'ai commencé à travailler sur Foucault et le christianisme, le cours au Collège de France sur les Pères de l'Église était un cours qui n'avait pas encore été édité. C'est un cours qui était pratiquement inconnu. On n'en connaissait que le résumé. Il a été édité depuis par Michel Sennelard dans une très belle édition en 2012. Mais à l'époque, un cours dont on savait pratiquement rien et que je suis allé écouter à l'IMEC. Et ce cours, donc, c'est le cours qui s'intitule « Du gouvernement des vivants » que Foucault prononce au Collège de France début 1980. Et pour moi, ce cours a été un véritable choc. Voilà, parce que je ne soupçonnais pas l'intensité de l'engagement de Foucault dans la lecture de ces textes de l'Antiquité tardive. De ces textes où, justement, à notre grande surprise pour les Foucaldiens, il est question de baptême, il est question de pénitence, il est question d'ascèse, il est question de direction spirituelle. Et vous voyez, on est bien au-delà de la seule question de l'aveu. Et ça a été, je pense, pour Foucault, véritablement, on parle souvent du dernier Foucault, hein, le Foucault du souci de soi, le Foucault de l'éthique, le Foucault de l'inquiétude morale. Souvent, on a cru que c'était la lecture de l'Antiquité gréco-romaine qui avait amené Foucault vers ce terrain-là. Or, pas du tout, c'est d'abord parce qu'il a lu les premiers penseurs chrétiens qu'il a été à modifier ses hypothèses et à porter son attention à ce que finalement il va appeler les formes d'expérience de nous-mêmes. À travers l'Antiquité tardive, il va s'agir pour Foucault de faire l'histoire non plus seulement de l'obligation extérieure un peu étroite d'avouer ce que je suis, mais celle de l'ensemble des actes que je choisis d'accomplir pour me changer. Car la spiritualité, finalement, c'est cela. Comment je travaille sur moi-même pour devenir autre que la personne que je suis. Devenir autre que moi-même, c'est-à-dire être transformé, pourquoi pas être sauvé. L'ensemble de ces actes que le sujet doit poser pour se transformer, c'est cela que Foucault va appeler l'expérience que nous faisons de nous-mêmes à une certaine époque. Parce que, bien entendu, c'est une expérience qui est historiquement située. C'est cette question plus large qui s'ouvre à travers le cours au Collège de France en 1980, dont j'ai voulu me saisir à travers ce livre. Quelle nouvelle expérience de nous-mêmes le christianisme a-t-il rendu possible au premier siècle chrétien de notre ère? Alors, mon troisième mot serait religion. Je trouve ça extrêmement intéressant la manière dont Foucault se saisit du matériau et du discours religieux, justement à travers cette question des actes de vérité et des techniques de soi. Cette série d'actes que nous devons poser pour progresser, pour nous changer, pour nous améliorer, pour nous transformer, pour faire notre salut. Finalement, la religion, pour Foucault, c'est cela. C'est une force qui nous amène à être autre que ce que nous sommes, autre que ce qu'une société a défini en termes d'identité, en termes de rôle, en termes de destin. Définition qui me semble très forte, très originale, et surtout non essentialiste et non idéologique de la religion, de la pensée en termes d'actes. Et vous voyez, cette religion vue du côté de la praxis et du côté de l'expérience que cette pratique dessine, elle met volontairement entre parenthèses deux choses. Tout d'abord, les normes et les codes de vie, c'est-à-dire le domaine de la loi, et surtout les dogmes et les doctrines, c'est-à-dire le domaine des idées. Et c'est cela que Foucault va mettre entre parenthèses pour aborder de manière très originale le christianisme. Et je pense qu'il y a des leçons à retenir pour réfléchir ou pour une autre approche philosophique et historique de la religion. Et en fait, c'est une histoire chrétienne que nous raconte Foucault, pratiquement une histoire, je dirais, sans Dieu, sans Jésus-Christ mort et ressuscité, car elle ne concerne que ce qui a un effet véritable et mesurable sur les sujets, c'est-à-dire sur nos manières de vivre, sur nos manières de nous rapporter à nous-mêmes. La religion, c'est d'abord une série d'actes du sujet, ce qui permet, je crois, de serrer au plus près en quoi et à quel endroit la religion véritablement change nos vies. Foucault n'exclut pas de s'intéresser également à certains moments, et je l'ai dit, à l'objet de la foi, au contenu même des discours chrétiens, à l'argumentation théologique, mais à la condition que ces argumentations, ces discours et l'objet de la foi changent quelque chose dans le rapport concret que nous avons à nous-mêmes.
L'ouvrage dont il était question aujourd'hui, Michel Foucault et le christianisme, nouvelle édition revue et augmentée de Philippe Chevalier, est disponible en version papier sur le site d'ENS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est également disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection La Croisée des Chemins.
C'était Le Sens des Mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maëlle Lopez. Au mixage, Adrien Reynaud. À la production et réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.